gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir,
on t'entend.
Bonsoir, bienvenue dans la causerie. Vous êtes sur Radio Canu, au 102.2 si vous nous écoutez sur les ondes FM. Et puis vous êtes également, vous pouvez nous écouter sur Internet, donc sur radiocanu.org. Et puis si vous voulez éventuellement nous contacter, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et bien pour contacter la causerie, vous pouvez envoyer des mails par exemple à lacauseriecanu@gmail.com.
Tout à fait. Et puis vous pouvez aussi nous contacter sur notre blog. Donc
blogs.radiocanu.org/lacauserie. C'est ça.
Et après ce lancement foireux,
et également on est présent sur un réseau social tout bleu.
C'est vrai.
Exactement. Voilà. Et donc, pour finir ce lancement foiré, autour de la table, ce soir, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Nous avons Stan.
Bonsoir.
Il y a toujours Clara la technique.
Bonsoir.
Jonathan qui a fait un lancement.
Foireux.
Qui a fait le lancement.
Qui a essayé.
Je ne le fais pas.
Et puis un invité surprise ce soir, Emilien.
Bonsoir.
Donc, bienvenue dans la causerie. Et ce soir, nous allons commencer avec Jean-Yves, qui a prévu de nous parler de...
Je vais vous parler de Monsieur Erdogan, de l'Europe, des migrants et un peu de tout ça à la fois. Alors, ça commence le jeudi 24 novembre. Les eurodéputés à Strasbourg ont appelé dans une résolution non contraignante, adoptée à une très large majorité, je vous passe le nombre de voix, à un gel temporaire du processus d'adhésion entamé en 2005 en raison de mesures répressives disproportionnées, entre guillemets, prises par Ankara dans le cadre de l'état d'urgence instauré depuis la tentative du coup d'état du 15 juillet, donc en Turquie. Pour rappel quand même, en Turquie, il y a plus de 100 000 personnes, professeurs, militants, militantes politiques, militaires, magistrats qui ont été arrêtés, limogés ou suspendus. Hein, une ambiance assez sympathique. Et dernière petite info quand même, c'est dans une mesure sans précédent, disent les journaux, depuis le début des purges, on peut l'appeler comme ça, les autorités ont annoncé vendredi, il y a quelques jours, la réintégration de plus de 6000 enseignants qui avaient été suspendus. Alors les peines, les recherches sur eux continuent et sur elles continuent. En fait, c'est juste parce qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus assez de profs. Donc là, on remet des profs, on les remet parce qu'on est dans la merde. Enfin, l'État turc est dans la merde. Donc j'en reviens à mes eurodéputés qui avaient toutefois, malgré cette résolution non contraignante, rappelé leur engagement en faveur du maintien de l'ancrage de la Turquie à l'UE, toujours entre guillemets, et promis, entre guillemets, de revoir leur position une fois que les mesures disproportionnées auront été levées. Alors tout ça quand même, enfin faut un peu discuter tout ça. C'est que il y a quand même peu de gouvernements européens qui vont tenir compte de cette recommandation du Parlement européen, parce que même si l'Autriche elle est favorable à un arrêt des négociations avec la Turquie, l'Allemagne et la France et la plupart des pays membres continuent de soutenir le processus, bah parce qu'ils redoutent un peu, enfin ils redoutent de compromettre la collaboration avec Erdogan. Et il faut recontextualiser aussi là, parce que c'est toujours hein, de la politique à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. C'est que dans le contexte européen, il y a quelques scrutins un petit peu importants qui vont arriver prochainement. Pour l'exemple, on va dire deux gros mastodons européens hein, comme la France et l'Allemagne. En France, vous le savez quand même, hein, on commence à sentir toute cette odeur de merde.
Ça va arriver.
C'est ça. La présidentielle, c'est pour bientôt. Et en Allemagne, il va y avoir des élections fédérales. Et évidemment, confronté à la montée des populismes et pour obtenir le pouvoir, finalement rien de mieux quand même pour les pays européens que de mener une politique populiste et d'exclusion, parce que quand même c'est ce qui est mené. Et que donc, ce que je voulais quand même rajouter, c'est que la logique de pouvoir, hein, qu'elle soit en France, en Turquie, en Allemagne ou ailleurs, elle est rarement logique et raisonnée. Et même progressiste en fait. Donc voilà. Donc après cette résolution des eurodéputés, hein, vous me suivez, ça va ?
Tout se passe bien.
Ok, nickel, je perds personne. Le lendemain, donc le 25, vendredi, le président turc ou bientôt pas tsar. Qu'est-ce que je raconte, sultan, Recep Tayyip Erdogan a menacé donc d'ouvrir les frontières pour laisser passer les migrants voulant se rendre en Europe et a aussi balayé les avertissements de Bruxelles au sujet d'un éventuel rétablissement de la peine capitale. Parce que ça fait quand même plusieurs fois que M. Erdogan revient en disant « Si le bon peuple demande la peine de mort, je ne pourrai que signer ». Vraiment sympathique. Donc voilà. Et il a quand même, je vais quand même vous dire hein, ce qu'il a dit, hein, parce que c'est toujours, il est grandiloquent ce président. Lorsque 550 000 migrants se sont amassés au poste frontière de Capicule, c'est à la frontière turco-bulgare, vous avez crié à l'aide. Vous avez commencé à vous demander que ferons-nous si la Turquie en ouvre ses frontières. Écoutez-moi bien. Si vous allez plus loin, ces frontières s'ouvriront. Mettez-vous ça dans la tête, a déclaré M. Erdogan dans un discours à Istanbul. Voilà, le climat est vraiment sympathique, évidemment. Donc, ces déclarations, elles font encore une fois écho aux craintes des Européens, des pays européens et des gouvernements européens, que le régime turc finalement renonce à appliquer l'accord sur les migrants, signé en mars avec l'Union européenne. Et qui en fait, qu'il arrêterait genre de bloquer le flux des réfugiés. Voilà, c'est un peu la grande peur. Donc, pour
c'est
rappel,
la peur du moment, de toute manière.
Ah mais oui, c'est ça. Et pour rappel quand même, hein, moi, ce que il faut quand même toujours se rappeler des contextes de toutes ces choses qui se sont passées, c'est que le pacte migratoire, c'est donc ce truc qui est passé entre l'Europe et la Turquie. En fait, Ankara demandait, la capitale, hein, demandait. Que ces ressortissants soient exemptés de visa pour l'espace Schengen et a menacé plusieurs fois de rompre l'accord avec l'UE si ce dossier n'avançait pas. Mais l'accord sur les visas est embourbé parce que l'Europe reproche à la Turquie de n'avoir pas rempli tous les critères. Voilà, et évidemment aussi dans ce pacte migratoire, c'était donc évidemment de garder tous les migrants, ou en tout cas même de ramener tous les migrants qui sont en Grèce vers la Turquie, donc pour préserver ce continent européen de oulala, la grande peur. Et donc voilà, on avait aussi évidemment, l'Europe avait promis 3 milliards d'euros à Erdogan, qui l'a aussi dit c'est pas vrai, on les a pas reçus, et Bruxelles dit si en fait on les a donnés. Donc voilà. Donc les réactions, parce que c'est quand même ça qui est intéressant aussi derrière, hein, c'est tout ce procédé, mais c'est aussi les réactions derrière. Donc les réactions de la chancelière allemande Angela Merkel, elle a aussitôt réagi par le biais de sa porte-parole, en disant « Nous considérons l'accord entre la Turquie et l'UE comme un succès commun, et la poursuite de cet accord est dans l'intérêt de tous les acteurs. » De tous les acteurs, on n'a pas dit tous les migrants, mais tous les acteurs. Et des menaces des deux côtés n'avancent en rien. Même discours du côté du Quai d'Orsay, hein, en France, hein, où on dit les surenchères et les polémiques sont tout à fait contre-productives. Ouais, voilà. La Grèce aussi a exprimé son inquiétude, hein, en disant que l'instrumentalisation des réfugiés équivaudrait à un acte d'agression. Voilà. C'est le ministre de la Défense grecque, hein, qui dit ça. Voilà, voilà. Et autre petit signe aussi, réaction un peu, mais là, du côté turc, de ses crispations avec l'Europe. Eh ben, monsieur Erdogan a récemment évoqué l'option d'un référendum pour savoir s'il faut poursuivre ou non le processus d'adhésion à l'UE et un possible rapprochement avec l'Organisation de coopération de Shanghai, coparrainée par la Chine et la Russie. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça c'était tout le contexte. Moi, ce que je voulais un peu amener derrière tout ça, c'est les réactions. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand on entend ce qu'a dit M. Erdogan, tout le monde dit « Oh là là, mais Erdogan, c'est un méchant, c'est un vilain qui utilise les migrants comme une monnaie d'échange. » Et en fait, l'Europe, elle a fait quoi contre 3 milliards d'euros, en fait ? En fait, elle n'a pas vraiment fait autre chose que la même chose, c'est-à-dire... Ce sont des principes de gestion stratégique, raciste évidemment, hein, parce que quand même, c'est toujours l'étranger le problème, vous avez déjà remarqué. Donc voilà, et je voulais aussi rappeler que ce pacte fait avec la Turquie l'a été aussi avec un autre grand ancien président, Monsieur Kadhafi, un grand défenseur de plein de choses, on le sait bien. Et donc voilà, donc c'est juste aussi pour dire que c'est pas parce que maintenant M. Erdogan n'est plus très très gentil qu'il faudra oublier les pourris qui nous gouvernent aussi et que faudrait éviter de tomber dans ces travers un petit peu trop rapides. Et je voulais rappeler, après je vous laisserai réagir, que les migrants effectivement sont utilisés dans tous les pays pour consolider des politiques intérieures les plus dégueulasses, les plus racistes, les moins solidaires. Parce qu'on refuse toujours des gens qui sont en train de fuir la mort, que l'Europe se barricade derrière des barbelés, des murs, on en a déjà parlé ici, il y en a de plus en plus, derrière des frontières, distillant toujours la peur de l'autre, du migrant, du réfugié, pour nourrir des politiques toujours nationalistes. Et donc tout ça aussi bien par des gens de droite, d'extrême droite, mais aussi... Bah, soi-disant de gauche. Donc voilà, et je terminerai juste par ça. Bah, là où le fric et les matières premières circulent librement, bah, les humains, eux, se doivent toujours de risquer la mort pour tenter de vivre. Et juste ce petit truc, ça fait un peu plus slogan de militant, mais c'est quand même, faut se le rappeler, ni état ni frontières, tout ce qui est humain est nôtre en fait. Moi, c'est un peu derrière ça que je voulais m'inscrire. Donc voilà, si vous avez des petites choses à dire, dites-les moi.
Et bah, moi, j'ai peut-être pas bien compris toute la chronique, mais à un moment donné, si donc Erdogan se retrouve au pouvoir dans cette configuration-là et avec ce régime-là, c'est par rapport aux propositions de l'Union européenne, aux accords et aux propositions de l'Union européenne, finalement. C'est si il y a tout ce débat autour des migrants, c'est parce que l'Union européenne a proposé une solution,
ah ben oui. Hein,
comme on emploie dans certains régimes politiques. Mmh. Et du coup. Lui, bon, avec toute sa magnificence de dictateur en puissance, pardon pour l'expression, répond à ça. Donc finalement, je me demande si ça arrange pas l'Union européenne et ses dirigeants, plus qu'autre chose, que ce soit autant le bordel en Turquie. C'est-à-dire que, ben, en effet, ça permet aux politiques actuelles qui sont en campagne de dire « Oh, les méchants et tout, regardez-nous, on est pour les droits de l'homme, etc. » Et puis de bloquer tout le flux migrant sous des prétextes voilà.
Ben je pense que alors moi je pense que ça les fait chier les Européens. C'est pour ça qu'il y a les réactions d'Angela Merkel et tout. C'est parce que vraiment je pense qu'ils craignent ce flot de migrants vraiment. Après que Erdogan forcément il s'en sert lui aussi hein, dans ses politiques à lui intérieures parce que encore une fois les politiques c'est à toujours différents niveaux et surtout non mais c'est que finalement Erdogan il a été pourri depuis un petit moment et que ça a pas empêché l'Europe de passer un pacte avec lui finalement.
De le soutenir.
Mais oui, c'est ça.
De travailler avec lui. De,
mais oui, c'est ça.
Et d'avancer avec lui.
Et que finalement, après, bah, il leur chie dans les bottes. Bah ouais, en fait, je pense que ça fait un petit moment quand même qu'on savait que Erdogan, c'était pas forcément, je sais pas, un progressiste forcené, quoi. J'ai pas l'impression quand même, entre son temple, son superbe manoir de je sais pas combien de milliers de mètres carrés, et son retour de la tradition et tout ça, c'est. Et je pense que c'est dès le départ, en fait. Mais c'est hyper compliqué. Parce qu'après, il y a aussi des gens qui disent, si, admettons, l'Europe disait non à la Turquie, ben, ça va enfermer les progressistes turcs dans plus rien. Il y aura plus rien. Il y aura plus que l'idéologie et les projets d'Erdogan qui seront visibles. Mais au final, je pense que si on voit que ça comme ça, on est enfermé dans leur propre logique, en fait, à chaque fois, de politique intérieure, nationale, etc. Et qu'on en oublie qu'encore une fois, on ne parle que d'humains qui fuient la guerre et la mort, en fait, quoi. Et qu'à rentrer trop dans leur jeu, justement, ultra-politicard de calcul, justement, de tout, en fait, on devrait peut-être un peu s'en foutre des calculs politiques à un moment donné et que, bah, des gens qui fuient la mort, on devrait juste dire, bah, welcome, quoi. Voilà.
On s'en... Voilà, allez.
On se passe à un petit morceau sympathique.
Allez. Vous êtes de retour sur la causerie, enfin dans la causerie, enfin chez nous quoi. Voilà, c'est ça. Et on vient de s'écouter un petit titre de Brigitte Fontaine. C'était le titre Énervé. Voilà. Et on va continuer avec Stan qui va nous parler d'écran et de plein d'autres choses.
On va aller sur de l'informatique.
Et c'est tiens.
Bah, on a senti que je touchais un petit peu à ça des fois.
Un petit peu.
Alors, en fait, je voulais parler de ça parce que pour la première fois, enfin cette année, il n'y a pas de date particulière, mais dans l'année, les Français sont enfin passés plus de temps derrière l'ordinateur ou leur smartphone que derrière la télévision. Voilà, on vient de dépasser le cap des 4 heures derrière un smartphone et ordinateur. On était à 3h51 sur la télévision. On vient enfin de passer ce cap, voilà, c'est pas une date à retenir, rien de particulier, c'est juste voilà, le premier constat.
Ouais, c'est une habitude de consommation.
C'est une habitude de consommation avec l'ouverture Internet partout, avec des smartphones qui font plein de choses maintenant, qui ne se contentent pas juste de donner l'heure et de
faire le serpent.
Et c'est-à-dire le serpent Snake, notre ami Snake, qui nous a occupé tellement d'heures de cours. Donc voilà, je voulais juste commencer un petit peu par là et qu'il ne faut pas oublier que Internet, c'est un média qui en sait énormément sur vous, qui est vraiment beaucoup plus que la télévision. La télévision, il y avait tout ce système d'audience, d'essayer de voir quand est-ce que vous changez de chaîne, les émissions qui marchaient bien, etc. Mais Internet, lui, va beaucoup, 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 et je pourrais le dire encore beaucoup de fois, donc beaucoup plus loin. Exactement, et c'est pas que la CIA ou des institutions gouvernementales qui font ça, c'est n'importe quel site, que ce soit Facebook, que ce soit Google, que ce soit Apple, que ce soit tout ça, tout le monde en sait énormément. Vous avez une moto, Facebook est au courant, que vous envoyez par email, Google est au courant,
Netflix, que j'adore, hein, Netflix, merveilleux outil. Lui, Netflix a tellement analysé ces choses qu'il pourrait déterminer à quel moment vous allez faire une pause pipi. Avant même que vous lanciez la série. Donc on est dans un moment où tout est analysé et ça va beaucoup plus loin que la télévision le faisait. Voilà. Maintenant, on va passer sur la suite. C'est-à-dire que je ne veux pas être alarmiste, ce n'est pas le but. C'est des outils formidables, qui sont vraiment très intéressants, mais il faut peut-être faire évoluer notre manière d'aborder Internet et tout ce regard qui est autour d'Internet. Donc, Internet dit, un des grands slogans, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mmh. Voilà. Et donc ça, c'est une certitude. On voit bien avec tous les outils Google, justement, qui sont gratuits. Mais c'est parce qu'il y a de la pub, parce que vous êtes analysé, parce qu'on va vous cibler, parce que, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention, il faut accepter, être conscient de cela. Il faut savoir qu'il existe une multitude de solutions open source qui, pour la plupart du temps, sont très correctes envers vos données privées. Et je dis bien open source... Et je ne dis pas gratuit. Gratuit, ce n'est pas forcément de l'open source. L'open source, c'est vraiment des logiciels qui sont ouverts.
Dont on peut voir le code source.
Voilà, c'est ça. Donc, le open source, c'est vraiment dire le code est ouvert, visible par tous. Et donc, c'est validé en soi par la communauté. C'est-à-dire que la communauté, s'il y avait quelque chose de vraiment néfaste, tout le monde se rebellerait en disant « Oh, qu'est-ce que vous avez fait là ?» Et il changerait le code vu que le code est visible. Donc voilà, c'est le principe de l'open source.
En fait, je te coupe, mais c'est des trucs qui sont développés en coopérative, quoi, en coopération
pas,
en tout
pas
cas.
Pas forcément.
Pardon. Non, d'accord.
Ça peut être en coopération, ça peut être un mec tout seul qui développe un truc okay. Et qui le met vraiment à la portée de tous en disant voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'utilisez, vous voulez le modifier, vous voulez le. Moi, j'ai fait quelque chose, c'est cool, je trouve, et ça permet de faire ça. Voilà. Et je vous montre comment je l'ai fait. Donc en plus d'être un outil d'apprentissage qui est top pour ceux qui veulent développer, qui veulent apprendre, mais ceci permet de voir que. Bah, y a rien de néfaste dedans. C'est un petit peu comme une liste super détaillée dans un ingrédient que tu viens d'acheter, un produit voilà, que tu achètes dans un supermarché. C'était vraiment super super détaillé, vraiment précisément et tout. Mm-hmm. Et pas des recettes secrètes un peu bizarres comme le coca. Voilà. Donc vous allez peut-être prendre des notes, je sais pas, ça va être un moment cool. Je vais rentrer un petit peu plus dans le dur en expliquant, en donnant quelques méthodes de protection. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Sérieux, c'était décontextualisé, c'était très drôle.
Il ne faut pas décontextualiser, c'est le mal.
Pardon.
Donc voilà, donc non. La première chose que je vais vous dire, c'est que si vous recherchez l'anonymat, et tout ce que je vais vous dire, c'est par rapport à ça, c'est sur la recherche d'anonymat sur Internet, désinstallez Windows, désinstallez macOS, installez Linux. Parce que sinon, tout ce que je vais dire ensuite, c'est un peu caduque. Parce que Microsoft récupérera quand même des informations, des données. Donc ça ne marche pas complètement. Donc voilà, Linux. Hein, Linux, ça peut être Ubuntu, ça peut être n'importe quel Linux. Ils seront tous avec le même noyau et tout à peu près correct. On va parler après du côté des navigateurs, donc ce qui vous permet de naviguer sur Internet. Déjà, là, on désinstalle Google Chrome ou Internet Explorer. Enfin, pour désinstaller, c'est très compliqué, mais on ne l'utilise juste pas. Google Chrome, c'est merveilleux, c'est fantastique, mais c'est Google. Donc ça récupère vos informations sur chacun de vos clics. Donc déjà, utilisez Firefox de préférence, c'est déjà un petit peu mieux. Ils vont analyser vos données également, mais c'est plus d'un point de vue optimisation logicielle que pour vendre de la pub. Après, il y a encore beaucoup mieux.
Il y a Chromium aussi.
Il y a Chromium pour les fans de Chrome, qui justement, c'est Chrome, mais sans les mouchards de Google dedans.
Disons qu'il est open source du coup, voilà. Vous pouviez vérifier.
On peut, voilà, c'est très très bien Chromium. Surtout pour les fans. Moi je suis fan de Chrome, donc je pourrais jamais m'en passer, et Chromium c'est une très bonne alternative pour ça. Et si on peut aller encore plus loin, on peut utiliser le navigateur Tor. Alors là c'est un petit peu plus corsé. Tor, ça va vous permettre de cacher en soi la provenance et donc qui vous êtes en utilisant et en relayant votre demande en fait sur plein de relais aléatoires. Donc ça fait que pour votre trajet qui normalement est A, vous arrivez vers B, le site, là ça va faire par A et par plein d'autres lettres totalement aléatoires pour arriver enfin à la fin. Et ça fait que le site ne sait absolument pas qui vous êtes, qui s'est passé, comment vous en êtes arrivé là. Il y a deux grands intérêts, donc déjà c'est ce que je viens de dire, vous brouillez les pistes, c'est-à-dire que le navigateur, et donc on ne peut pas récupérer l'information, mais il y a un autre très 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 grand avantage, c'est que ça contourne aussi les censures. Ça contourne les censures des pays qui vous interdisent d'aller sur tel site, et inversement, des pays qui, quand l'IP est extérieur à leur pays, qui vous interdisent d'aller dessus. Donc ça permet de faire plein de choses, et donc ça permet déjà de garder ce côté... Il n'y a pas de censure sur Internet. Mmh. Voilà.
Sans tort, on peut passer aussi par VPN.
J'y viens après au VPN. Ça, c'est une deuxième alternative. Les VPN, c'est très intéressant et très important. Donc, pour Tor, je mettrai un lien sur le blog qui vous expliquera un petit peu, des tutos, des choses comme ça. De toute manière, à chaque chose que je vous dis, allez vous renseigner. Il ne faut jamais aller à l'aveugle sur ce genre de choses-là. On cherche l'anonymat, donc il faut vraiment se renseigner. Alors oui, en plus, c'est un petit peu Tor, c'est très très bien, mais ça ralentit votre connexion, parce que forcément, vu qu'on va pas d'un point A à un point B directement, c'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus chiant. Et...
Il faut savoir aussi que c'est crypté, du coup, ton fournisseur d'accès Internet ne voit pas les données qui passent.
Exactement.
C'est aussi ça qui
les paquets sont cryptés. Ouais. Je vois Jonathan qui danse, alors je me demande ce qu'elle fait.
Mais... J'ai DuckDuckGo.
C'est la suite, ça. Une première chose à faire également, c'est changer votre serveur DNS. Alors un serveur DNS, voilà, je te vois ouvrir les yeux en grand et me faire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que sont ces mots qu'il utilise ?» Serveur DNS, c'est le petit truc qui fait qu'en gros, quand tu tapes une URL, ça va sur un serveur IP. En fait, c'est ce qui comprend que tu vas de là à là. En fait, tu vas t'écris ça, tu veux aller là. C'est juste la vraie adresse. Mmh. Et le serveur DNS, ben, ça sert vraiment à faire cette transition-là. Et ce qui est cool, c'est que le meilleur serveur DNS actuel, c'est celui de Google. Donc, tous ceux qui veulent vraiment une bonne connexion, souvent, ils utilisent ça. Après, de par défaut, vous avez celui de votre fournisseur d'accès. Et qui est tout aussi néfaste que celui de Google. En fait, il récupère toutes les informations. Faut pas, voilà.
Surtout qu'il marche moins bien en général.
Changement de feuille qui a pris 2 minutes. Merci Emilien d'avoir parlé à ce moment-là. Ça m'a permis de faire presque comme si tout se passait bien. Et donc là, vous n'avez pas beaucoup de choix. Il y a quelques DNS associatifs, comme celui de French Data Network. Je vous laisse aller sur le site. Qui vous propose un DNS donc, qui est très neutre, qui ne récupère pas les infos, qui laisse tout passer, qui tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Là encore, une petite recherche pour rechercher French Data Network et aussi pour changer un DNS. Rien de compliqué, c'est 30 secondes dans les propriétés de sa carte réseau, ça va très vite et la navigation, il n'y a pas de modification au niveau de la vitesse de navigation.
Donc tu veux dire que genre même moi,
même toi,
est-ce que vous vous rendez bien compte que je capte rien ce que tu dis?
Alors, si tu vas sur google.com, google.com ça veut rien dire sur un serveur. Un serveur il a une adresse, genre ça va être 125.12.33.18, ouais. Sauf que Google a plusieurs serveurs et du coup le DNS ça va permettre que google.com ça va le rediriger vers le serveur de Google le plus proche de chez toi.
Okay.
Et du coup ça permet d'avoir déjà une distribution selon les serveurs et puis pour toi de pas avoir à retenir une série de chiffres pour réussir à trouver ta recherche.
Ok. Ouais, vas-y.
Et donc justement, on va parler de la recherche, vu qu'on parlait de Google. Donc on arrête de rechercher avec Google, avec Bing, avec tout ça. On va plutôt aller sur DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche qui est très très bon, qui prône l'anonymat le plus total dans ses recherches, qui même facilite le travail avec Tor, enfin toute la navigation avec Tor. Ils ont vraiment fait des choses pour qu'on puisse voir qu'avec Tor, c'est très sécurisé. Le seul petit problème de DuckDuckGo qui pourrait devenir un très très gros problème, c'est qu'il est sur le sol américain. Mmh. Et donc, il peut être obligé de collaborer avec les services d'ordre. Et alors, tout était écrit, le patron de DuckDuckGo dit que non, c'est impossible, etc., etc. Pour l'instant, tout porte à croire qu'il n'a jamais fait de collaboration, et de toute façon, qu'il garde le moins de données actuelles. Mais dans le doute, je pourrais vous proposer XQuick, I-X-Q-U-I-C-K, qui vous permet de faire de la très très bonne recherche, sur le même principe que DuckDuckGo d'ailleurs, c'est de la recherche qui est multi-moteur de recherche. En fait, il va envoyer l'information pour vous à plein de moteurs de recherche, et il va vous donner les meilleures réponses. Alors le tout seul petit problème que je vois à ça en fait, je viens de réaliser là, c'est hors de ma chronique, par rapport à une de mes chroniques que j'avais fait avant sur la consommation énergétique de toutes ces choses-là. Si une recherche devient une multitude de recherches sur plein de serveurs différents, ben on démultiplie à fond cette... voilà, donc au niveau d'économie d'énergie, c'est tout pourri, mais c'est plus anonyme. Il faut dire ce qui est. Pour les emails, alors oui, les emails, c'est une grande histoire. Quand on envoie un email, on s'imagine que c'est cool et que c'est un tout petit peu sécurisé. Non, pas du tout, personne n'y croit. On envoie une carte postale, on n'envoie pas un courrier, on envoie une carte postale où tout est visible par tous les interlocuteurs et tous les intervenants questions autour de cette, de cet email. C'est écrit en gros, en gras, et voilà. Donc tout le monde peut bien lire.
Il y a toujours des moyens de chiffrement possibles.
Exactement, il y a des moyens de crypter assez facilement vos emails. Je mettrai un lien dans le sur le blog qui fonctionne d'une manière très classique à base de clés de cryptage et de ce genre de choses-là. Et c'est pas très compliqué. Alors bien entendu, pour envoyer un mail à mamie, on va peut-être s'en passer, mais de manière générale, on peut l'utiliser. Voilà. C'est pas très compliqué.
Ouais, sauf si mamie cultive de la weed, par exemple.
Ah, mais si mamie en est là.
Ah oui, mais c'est sûr.
Après, ça dépend pas juste du fait que ce que tu cherches soit illégal, mais ce que tu cherches, tu veux peut-être pas forcément savoir que ça soit.
Tu cherches ton anonymat.
Oui, c'est... oui.
Comme on dit, on n'a rien à cacher, certes, mais on ferme nos rideaux chez nous. Hmm? Voilà.
Moi, je suis pas d'accord. On a tous quelque chose à cacher, à commencer par sa propre intimité. Et rien que ça, en fait, le fait de vouloir envoyer bonne année, mamie, ou est-ce que tu peux me ramener un pochon de beurre la prochaine fois que tu descends.
Dans les deux cas.
C'est la question de l'intimité qui est.
Mais quand je dis on a rien à cacher, c'est la grande défense des gens qui disent non, mais on accepte cette vérification et ça parce que j'ai rien à cacher. De toute manière, c'est faux. Et ces gens-là qui n'ont rien à cacher ferment aussi le rideau chez eux quand ils se baladent tout nus, etc. C'est-à-dire, c'est voilà, on a une intimité. Et il faut accepter de dire, bah non, là, vous dépassez, c'est le temps défile, tout se passe bien, je ne me retournerai pas. et donc, ah oui, une toute petite détail aussi, ne mettez rien sur le cloud. Le cloud, vous avez vu plein de pubs, plein de choses, c'est génial, le cloud, etc. Le cloud, ça ne veut pas dire nuage, en fait. Hein. Enfin, en anglais, si, mais ça veut juste dire ordinateur d'une entreprise. Voilà, si votre fichier n'est pas chez vous, il est sur un autre ordinateur, c'est tout. Donc, vos documents, vos informations sont sur cet autre ordinateur. Donc, il peut être également et qui est analysé par les services.
Il y a des clouds qui sont cryptés.
Il y a des clouds cryptés, bien entendu, mais là aussi, c'est...
Quand même, leur mot d'ordre, c'est par rapport à la sécurité, donc c'est pas...
Bien entendu,
il faut quand même se renseigner de toute façon, par contre. Ça, c'est
il faut se renseigner toujours.
Oui, mais les clouds les plus utilisés, donc des grands fournisseurs d'accès comme, citons-les, Orange, Free et compagnie, c'est pas des clouds cryptés.
Un des plus grands clouds, c'est aussi celui de Google, quand c'est Google Drive, choses. Tout ça, c'est du cloud.
Il me semble que Dropbox est crypté.
Dropbox, alors ça, c'est une très grande histoire, parce que Dropbox, donc c'est un service permet, qui
d'échange de fichiers entre particuliers.
Ça, c'est vraiment comme si tu avais des dossiers sur ton PC, mais qui sont entre
en
plein de personnes,
synchronisés,
c'est top. Et en fait, il y a une petite histoire, c'est marrant pour ça. Dropbox, parce que j'ai vraiment cru, j'avais dit un jour, Dropbox est sécurisé, ne vous inquiétez pas, c'est tellement important et c'est tellement connu qu'ils vont garder tout cet aspect anonymat et voilà, ils vont faire attention. Et j'ai dit ça, et trois mois plus tard, ils ont changé leurs conditions générales, et en faisant vraiment un truc où ils disaient, on peut récupérer toutes vos données, on peut tout garder, etc. Donc il y a eu un lever de bouclier, ça a été le bordel, etc. Donc ils seront un petit peu rétro-pédalés, mais ça veut dire que...
À un moment, ils avaient peut-être l'idée.
Voilà, à un moment, ils ont eu l'idée, et que peut-être qu'un jour, ça en reviendra, et donc il faut faire attention à toutes ces choses-là, à ceux qui ne prônent pas tout de suite que c'est vraiment pour ça. Faites attention, c'est souvent un but commercial derrière. Faut bien, enfin, c'est une entreprise, et pour beaucoup, elle veut gagner de l'argent. Donc voilà, on va boucler ce petit tour des informations sur la sécurité. Alors c'était très bref, c'était très vulgarisé, c'était des grandes diagonales.
Sur le VPN.
Et donc maintenant je vais parler des VPN. Parce que les VPN, donc c'est un système qui est un peu identificateur. Ça... Vous êtes identifiable sur Internet par votre IP. Et en fait, le VPN, grossièrement, il va faire croire au site en question ou à l'outil que vous allez utiliser que vous avez une autre IP. Ça va dire que mon IP, ben, en fait, elle n'est pas là, elle est là-bas. Mmh. Voilà.
Pour l'IP, on reparle de la même chose que pour le DNS. Ouais. C'est juste que toi-même, tu es comme un serveur.
Toi-même,
pour...
tu as ton adresse.
C'est formidable parce que j'ai vraiment l'impression que cette émission est faite pour moi.
Et donc, le VPN, lui, va dire, bah non, je ne viens pas d'ici, je ne suis pas ici, je suis là-bas. Et parce qu'une des grandes questions qui se pose quand même, c'est Tor, c'est très bien, mais qui me protège de Tor? Et donc, c'est le VPN. Si on fait une double utilisation, en fait, on va dire au VPN, je suis ici, mais je veux que tu me fasses croire que je vais là, que je suis là, et tu vas envoyer ça à Tor. Donc, tu ne vas même pas savoir où est-ce que je veux aller. Tor, lui, ne sait pas vraiment d'où tu viens. Et donc dans le mix, là on commence vraiment à avoir perdu tout le monde. C'est-à-dire qu'on essaye de perdre même les logiciels qui tentent de nous protéger. C'est un petit peu le but à la fin. Mais le VPN en soi est Alors, il faut vraiment faire des recherches sur les VPN, parce qu'en plus, entre eux, c'est compliqué. Ils ne vous protègent pas tous très très bien. Ils laissent passer des fois votre IP de là où vous êtes. Et enfin, voilà, il y a plein de recherches à faire. C'est très compliqué. Je vous en proposais un, mais dans tous les cas, il faut toujours aller vérifier. Donc, www.dacloud.me, qui est assez préconisé par les gens qui veulent vraiment rechercher l'anonymat. C'est le seul truc qui est gratuit, et qui n'est pas du tout gratuit justement, tous les autres sont gratuits, mais c'est le seul qui est payant. Ça coûte une vingtaine d'euros par mois. Le VPN par principe est payant en fait, parce que c'est vraiment, ça vous crypte, ça vous aide vraiment en termes d'anonymat. Voilà, c'était un très très beau truc, tout ce que je viens de dire. Donc voilà, non, je voulais juste finir par dire que il faut...
Moi, je voulais aussi que tu parles du NAS.
Oui, alors le NAS, c'est un espèce d'outil que vous pouvez avoir chez vous. Enfin, c'est pas un outil, c'est un disque dur connecté.
Un mini serveur,
c'est un mini PC. Et pour ceux qui sont vraiment férus d'informatique et qui s'y connaissent, avec ça, c'est magique, parce que vous pouvez faire votre serveur de messagerie, votre VPN perso. Donc là, il n'y a même plus de problème de est-ce que le VPN garde mes informations, etc. Mmh. Non, c'est vous qui le montez.
Après, du coup, tu gardes quand même une adresse chez toi, et les VPN, c'est aussi une solution qui permet, par exemple, en Chine, où il y a un gros pare-feu global pour l'accès, où il y a beaucoup de solutions, de gens qui utilisent des VPN justement pour pouvoir utiliser d'autres sites que les sites autorisés chinois.
Okay. Typiquement,
donc, par exemple, si tu as un VPN, tu peux en soi utiliser un Netflix USA. Okay.
Typiquement, pour tous les pays où Facebook était bloqué, c'est une utilisation VPN pour aller sur Facebook justement.
Okay. Vu que ton IP actuel, enfin ton IP chez Free par exemple, elle va te définir que tu es en France. Donc ouais. Du coup, les sites vont vérifier par rapport à ton IP si tu es en France ou pas, et du coup dire oui, c'est bon, je peux pas. Par exemple, Canal Plus n'est pas accessible en dehors de la France.
Ouais.
Ok. Ok.
Très bien.
Non, non.
Mais... Je suis complètement à la bourre. Donc, je vais pas faire la toute part. On va tracer un petit peu. Je voulais juste dire, donc, autour de ça, même si protégez-vous, tous les sens du terme d'ailleurs, sexuellement aussi, protégez-vous. Mais sur Internet, protégez-vous. Et non, voilà, il faut peut-être faire une recherche au niveau de l'anonymat, parce qu'on peut pas laisser ces grandes entreprises nous analyser et en fait faire de nous vraiment les produits d'Internet. C'est à nous de le façonner, Internet. C'est à nous de définir comment est-ce qu'on veut qu'il marche. Il faut qu'on arrête d'accepter que YouTube nous donne que des vidéos de choses qu'on aime et qui nous a tellement analysé qu'il nous empêche de voir tout ce qu'on n'est pas sûr d'aimer ou qu'on ne connaît pas. Mmh. Il va nous proposer que des choses qu'on est sûr d'apprécier, enfin qu'il est sûr qu'on apprécie. Facebook, ça va être pareil. Enfin, il faut qu'on arrête de croire que le monde, c'est ce que ces entreprises nous montrent. Donc il faut qu'on change nos habitudes de consommation, il faut qu'on change nos habitudes de recherche, il faut qu'on se batte pour aller vraiment au-delà de ça et pour qu'on montre à ces entreprises qu'on veut tout savoir, on ne veut pas juste savoir ce qu'ils ont cru qu'on allait aimer.
Voilà. Alors il faut savoir quand même que malgré tout, sur Facebook, tu es identifié par rapport à ton nom d'utilisateur, et du coup toutes ces solutions ne changeront pas par rapport aux résultats que Facebook te fournira, par rapport à ton flux d'actualité, tu t'identifies en tant qu'utilisateur.
Toutes les solutions d'anonymat qu'on a pu donner ce soir, etc., ne marchent absolument pas si vous vous connectez sur Facebook avec votre nom et votre prénom. Hein. Oui. C'est que l'anonymat, il va aussi dans votre comportement, il va aussi dans tout ça. Si votre Gmail, c'est pareil, vous avez mis votre numéro de téléphone et que vous avez mis que votre smartphone, vous n'avez pas vérifié tout ça, il va connaître vos déplacements et tout, donc ça va très très loin, et ça va aussi par justement ne pas forcément naviguer de manière
inconsciente.
Exactement.
Mais il y a un truc, hein, je suis désolée, j'y tiens, mais à un moment donné, s'il faut se protéger comme ça et préserver son anonymat et préserver ses habitudes de lecture en fait, des informations d'Internet, c'est peut-être aussi parce que quelque part, avec toutes ces informations, il y a les moyens d'influencer les masses. Et influencer les masses comment ? En réorientant systématiquement les individus vers ceux qu'ils aiment, on peut arriver à certaines propagandes politiques. Une campagne qui se déroule exclusivement sur les réseaux sociaux, sur Internet, finalement, aura beaucoup plus de personnes qui regarderont cette campagne-là quand les divers moteurs, promoteurs et compagnie auront trouvé le moyen de nous orienter sur ces choses-là.
Et juste une dernière petite phrase, parce que c'est très très important. C'est mieux en parler si...
Oui, donc il faut savoir qu'au Royaume-Uni, la loi de censure, mais d'enregistrement de vos faits et gestes, qui est le plus important, la plus privative en termes de liberté qui a été votée, c'est-à-dire que maintenant, enfin, aux États-Unis, en Angleterre, on va pouvoir enregistrer votre historique sur Internet jusqu'à un an. C'est-à-dire que l'État a le droit de savoir ce que vous avez fait pendant un an avec toutes les informations, c'est-à-dire la géolocalisation au moment où vous l'avez fait, la recherche, tout ce qui est lié derrière. Donc il y a vraiment un paquet d'informations. Donc c'est pour ça que ces solutions de VPN, de Tor, commencent à être quelque chose qui devrait être la base sur une installation sur tout ordi.
Voilà. En résumé.
Au-delà de simplement Google. C'est-à-dire que là, il y a une loi qui autorise l'État à le faire.
Ouais. C'est la pire loi sur l'enregistrement de vos données personnelles qui a été signée dans une démocratie. Voilà. C'est en Angleterre, ça vient de se faire.
Le futur fait rêver. Hein.
Le futur fait rêver. Ouais.
Musique ?
Allez.
J'aime les bêtes, j'aime les bêtes, j'aime les blattes et les ablettes. J'aime les bêtes, j'aime les bêtes, j'aime les tigres et les moufettes. J'aime les bêtes, oui, oui. J'aime les bêtes, oui, oui. J'aime les serpents à sonnette. J'aime les bêtes, oui, oui. J'aime les bêtes, oui, oui. J'aime les persans, ça c'est net. Mais toi, je t'aime pas. J'aime aussi les galinettes. J'aime les bêtes, j'aime les bêtes. Même sans plumes, les alouettes. J'aime les bêtes, j'aime les bêtes. Les blondies et les roussettes. Mais toi, je t'aime pas.
Et de retour sur Radio Canu, La Causerie, on vient d'écouter Old Olaf, J'aime les bêtes.
C'est ça. Il parlait de quelqu'un précisément, je crois.
Il me semble, je ne sais pas.
Enfin bon. Alors, je vais essayer de faire vite, ce qui va être compliqué. Donc on va, pour cette dernière partie de La Causerie, la semaine dernière déjà, on vous avait passé un documentaire sonore, c'était Athée à la menthe au Maroc. Et bien là, cette semaine, c'est Athée à la menthe en Algérie. Donc comme la semaine passée, je vais quand même vite fait vous lire le petit texte de présentation. Si l'athéisme a toujours existé dans le monde musulman, il se développe ces dernières années à la faveur des printemps arabes et en réaction contre l'intégrisme. Mais la libre pensée reste difficile à vivre au quotidien. En Algérie, quand on est athée, on ne le dit pas à n'importe qui. Omar, Mustapha et Lamine se cachent même de leur famille. Pourtant, ils s'activent sur les réseaux sociaux pour l'instauration d'un état laïque. Entre petits arrangements et menaces bien réelles, des athées algériens racontent leur monde à part. Donc je rappelle juste que cet enregistrement date de janvier 2016. La prise de son additionnelle a été faite par Arnaud Forest. La mise en onde et le mix a été assurée par Charlie Marcellet. Et la réalisation est de Marine Valovic. Eh bien, bonne écoute.
«
Être athée en Algérie, c'est une vie extrêmement dure. On est obligé de vivre une vie à part. C'est comme si on était un étranger, un extraterrestre dans une autre planète. Je suis Omar. J'habite Rouiba, qui est à quelques dizaines de kilomètres d'Alger. Je suis un athée convaincu.
Je vais allumer le climatiseur.
Parce que là, c'est un hammam, là. Wow. On dit ça ?
Non.
C'est ça de faire une interview cachée dans une voiture.
Je me cache, bien sûr. Entre amis, il y a un cercle restreint où on discute, on se félicite mutuellement d'avoir su nous affranchir de cet enchaînement. Ah, le reste, non, c'est livrer une guerre directement à son peuple, c'est pas possible, madame. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas, il faut être dans la peau d'un Algérien ou d'un musulman qui a vécu ceci pour voir à quel point, c'est-à-dire on est l'objet d'une abomination. Il n'y a pas plus mal qu'une personne athée, c'est l'incarnation du mal.
Tu peux régler la fréquence, toi ?
On nous parlait souvent de ces gens qui étaient les athées quand j'étais musulman, qu'ils étaient financés parfois par Israël, parfois par des francs-maçons. Parfois. On croyait à ces légendes. Moi, c'est Lamine, j'ai 22 ans. Je me définis comme athée. On est dans le local d'une association à Bougie. On se cache dans un local pour faire cette interview.
Maintenant, avec l'intégrisme, nous sommes des condamnés à mort. Finalement, tu te déclares athée, c'est un peu avoir le courage de mourir. Donc ce débat, quelque part, on évite, tout le monde évite d'en parler. Je m'appelle Mustapha Raïs, donc je suis de Béjaïa. Béjaïa, c'est une ville kabyle au centre nord de l'Algérie.
Une bière, tu veux une bière ?
J'en ai marre de vivre dans ce silence. Je me sens un petit peu hypocrite. Il y a de l'hypocrisie que je traîne à ne pas le dire.
Au début, c'était les arguments scientifiques qui m'ont convaincu. J'avais lu des écrits dans des blogs. J'ai aussi lu dans des pages égyptiennes, tunisiennes. Puis j'ai arrêté. J'ai essayé de demander pardon à Dieu. J'étais vraiment perturbé. Je sentais que j'avais lu des trucs à ne pas lire, des trucs que je cherchais à m'éloigner de Dieu.
Je vais ramener de l'eau. Ah oui.
Depuis, si tu veux, mon enfance, moi, la religion ne me disait rien. C'était en grandissant qu'on m'a appris que je suis musulman. Et le bon Dieu à l'époque, moi j'ai cru que c'était un vieillard, une grande barbe blanche. Ben, c'était mignon le bon Dieu, c'était charmant. Et je savais que c'était quelque chose qui ne faisait pas du mal. Grandissant, on m'a appris les interdits. J'avais des cheveux longs, j'étais dans le vent, j'étais comme les hippies. Oui, je chantais, je dansais et tout. Il y a une morale qui est venue m'apprendre, non, tu dois couper tes cheveux, tu ne dois pas boire de l'alcool. Et j'étais révolté parce que je savais que dans mes cheveux longs, c'était la liberté, c'était beaucoup de choses, c'était l'amour aussi.
Après quelques mois, j'avais comme un truc qui me poussait à revenir et lire ces critiques.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à Alger, terminus de ce train.
J'ai commencé à voir l'islam comme une religion totalitaire. Je ne pouvais plus croire en Dieu ou...
Donc juste le ventilateur pour la buée.
Oui, un petit peu, ouais.
Il y a trop de...
Ouais, je sais, mais on est obligé parce que sinon ça fait trop de bruit. Toi, c'est compliqué l'interview dans une voiture.
Très, très bien.
Qu'est-ce que tu regardes?
Je ne sais pas pourquoi cette femme est en train de regarder ici. C'est le peuple lui-même qui est inquisiteur. Le peuple lui-même qui ne tolère pas que tu adoptes une conduite autrement que la sienne. Donc déjà le jour du vendredi, quand moi je rentre à la maison, et c'est tous les gens du quartier qui se dirigent en même temps à la mosquée pour prier. Et moi je prends le sens inverse, donc vers chez moi. C'est un petit peu visible, on n'a pas besoin de polémiquer sur ça. C'est un comportement un petit peu... Je l'assume, oui, je l'assume. Par contre, je ne peux pas manger ou boire pendant le ramadan devant tout le monde. Et à l'approche du ramadan, je suis déprimé 2 mois avant qu'il n'arrive. Ne pas faire le ramadan, c'est quelque chose de très, très, très mal vu. C'est sûr que je ne vais pas demander à ma femme de me cuisiner, elle va être révoltée. Mais je vais m'acheter quelques dattes que je mange discrètement. À celui à qui j'achète des dattes, lui, il pense que c'est pour la rupture du jeûne. Mais moi, je les mange juste aussitôt derrière le coin. Ma femme, elle est tolérante. Mais elle ne voudrait pas savoir que je suis athée. D'accord? Donc j'use parfois de ruse. Je lui dis que, en fait, je ne suis pas athée, que je suis juste contre une interprétation trop dogmatique de l'islam, que je suis pour la réforme. Une fois, mon épouse m'a dit que si tu es athée, donc ça fait 10 ans que je vis avec toi dans le péché. Tous les rapports sexuels qu'on a eus ensemble, c'était des adultères. Je le déteste. L'appel à la prière en soi, il ne me dit rien, il ne me gêne pas, dès lors qu'il ne m'abasourdit pas.
L'État qui avait multiplié et autorisé la construction de mosquées à tous les villages, j'ai l'impression qu'ils voulaient emmerder et dominer fortement le peuple par la religion. C'est-à-dire, là où on va, on entend, tu vois, ça sonne dans tes oreilles, ça sonne 24 sur 24.
Allez, yalla, c'est parti. On dit pas yalla en kabyle.
Non, on dit pas yalla. Aïya.
Aïya. Yalla, c'est...
Yalla, c'est arabe, c'est un peu...
C'est au bon Dieu.
Yallah.
Allah, c'est Dieu.
Ya Allah.
Barakallahu, c'est que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Ça, c'est religieux, barakallahu fik. Non, moi, j'exècre les saluts religieux. Je préfère le salut mondain. Le salut civil, je ne dis pas salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Je ne l'aime pas. Déjà, ça veut dire que, salam alaikum, la paix soit sur vous, je suis de la même secte que toi. Pourquoi je n'aime pas l'islam? C'est parce que ce n'est pas une spiritualité. C'est une doctrine dont les concepteurs voulaient envahir complètement la sphère du privé. Même quand on rentre aux toilettes, il y a des choses à dire. Quand on en sort, c'est l'occasion de rire. C'est toujours l'occasion de rire, de me marrer.
Chefard!
Je suis déconnecté de ma société. Pratiquement, je ne prends d'elle que ce qui est nécessaire à ma survie. Moi, j'ai mon monde. J'ai le monde d'Internet. Pourquoi je vais livrer une guerre à toute ma société? Je le fais selon mes moyens. Donc, en écrivant, je publie. Cela fait presque 2 ans que j'ai créé la page Facebook athée algérien, algérienne, mécréant, irreligieux et irreligieuse. On est toujours discret, on se fait toujours
petit, on est toujours, on adopte de faux profils. On n'est pas encore assez nombreux pour affronter de front la société et dire ce qu'on est. Non, c'est d'ailleurs c'est contre la législation. Annoncer directement son athéisme, faire du prosélytisme, influencer d'autres personnes à les faire sortir de l'islam ou leur suggérer une autre religion, c'est passible d'une peine de prison.
Hé hey. Coco, Coco, aussi là, aussi là.
Il est chouette, Coco. Il est chouette, ton fils.
Ah ouais?
Ah ouais.
Quelque part, mes amis me reprochent de toujours m'inquiéter sur Coco. Attention, fais pas ceci, fais cela. Tu sais, dans cette société, justement, mon fils, au début, il serait un intégriste. Hein? Ben oui, parce que mon fils, à l'âge de 14 ans, il a rejoint ses amis du quartier à aller à la mosquée, à aller prier. Mais tout ce que je lui ai dit, que la mosquée, tu n'iras pas. Tant que tu n'es pas majeur, tu n'iras pas à la mosquée. Tu fais ta prière à la maison. Tu lis tes livres à la maison. Bien sûr que j'ai peur de perdre mon fils. Hein. C'est des gens ont eu leur fils intégriste qui parfois ont pris la décision durant la décennie noire d'assassiner leur père.
C'est quoi la décennie noire?
C'est les années 90 d'intégrisme où il y a eu des assassinats. D'ailleurs, les chiffres, un peu plus de 200 000 morts. C'est des séquelles qui vont encore durer pendant des décennies au nom de ce dieu, justement. Ce dieu criminel. Ce dieu de la répression.
Avant la montée des islamistes, la société était très libre. Comme ce fut le cas avec l'Iran. Après la décennie noire, les gens ont gardé cet islam radical. Dans les années 80 avant, on m'a raconté, j'étais pas encore né. C'était rare de voir une femme voilée, des hommes barbus, pratiquer une religion musulmane light. L'islam est religion d'État. C'est l'un des premiers articles de la constitution algérienne. On ne veut pas de ça. Si un musulman pratique sa religion sans restreindre mes libertés, il ne me dérange en aucun cas. Je serai le premier à défendre sa liberté de pratiquer sa religion. Mais de là à restreindre mes libertés au nom de sa religion, je ne peux pas accepter.
Nous avons un souhait ardent de voir un jour notre peuple accéder à la pensée libre et à la pensée laïque, que les rituels ne soient plus un comportement collectif et visible dans la rue, fais ce que tu veux, mais que votre rituel ne m'atteigne pas. Je ne suis pas, par exemple, censé remarquer un climat ramadanesque. Pourquoi la vie, pendant les 11 mois de l'année, elle a un certain cours et aussitôt, pendant un mois, ça se voit qu'il y a un comportement collectif? Pourquoi une religion a-t-elle besoin de susciter en ses adeptes un comportement collectif en même temps? Pourquoi?
Je vais y aller. Mais, je te dis pas ma salama alors. Arte. Radio.
Non, non,
je te
non.
Dis comment?
Au revoir.
Point.
Tout simplement.
Comme.
Et voilà, c'était donc cette deuxième partie de documentaire autour des athées et des matérialistes de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, c'était juste parce que les athées à travers le monde, il y en a plein et qui sont malheureusement souvent opprimés, oppressés, tués, etc., etc. Et que faudrait pas oublier de faire un peu justement ces genres d'international, c'est un vilain mot, mais des gens qui ne croient pas.
On a tendance à les oublier en plus.
Mais oui, mais évidemment, parce qu'ils ne collent pas dans les clichés aussi qu'on attend, oui. etc., etc. Ouais. Donc voilà. Et ben on va terminer alors par des brèves parce que bon, on a fait sauter un titre, on est super à la bourre, tout ça, tout ça. Alors quelques brèves. Alors ça commence, bah comme tous les lundis, ça se passe à la Lutine. Il y a toujours les permanents juridiques d'aide aux sans-papiers. Ça se passe toujours de 18h30 à 20h. Donc à la Lutine, c'est rue Montesquieu dans le 7e. On continue lundi toujours, le 28, il y a la Fraco qui fait un café Fraco. Alors la Fraco, c'est une asso qu'on avait reçue de Fraternité et je ne sais plus, je suis désolé, qui organise donc un café Fraco. Ça sera à la Pinte Douce, c'est à côté de la place Colbert, sur Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse. Et c'est une discussion, présentation, et ça commence à 20h. Ensuite, on a jeudi le 1er décembre. Il y a un truc sur vieillir autrement, quelles alternatives? Alors, on n'est pas forcément vraiment tout de suite concerné, mais c'est des sujets qui concernent plein de gens et que je trouve très intéressants. Et ça se passera à la MJC du Vieux Lyon, salle Léo Ferré. C'est une soirée débat. Donc, il y aura projection de Nous vieillirons ensemble, la saga Baba Yaga, de Jean Larocca, et c'est suivi d'un débat sur les alternatives possibles au système ordinaire de prise en charge de la vieillesse. Et les Baba Yaga, c'est un système de vie collective de personnes âgées. C'était, voilà, on vit ensemble et on essaie de se prendre en main toutes ensemble.
Cool.
Ouais, et je crois que c'est une vieille féministe qui a fait ça.
C'est parti, il me semble, d'une vieille dame, que je ne sais pas si elle est féministe ou pas, mais qui a juste voulu vieillir avec ses copines et qui ont acheté une baraque ensemble pour s'entraider.
Je la comprends tellement. Ça donne tellement envie.
Et on a alors encore vendredi, ah non, pas encore, c'est pas le même jour en fait que ce que je viens de dire. Donc vendredi 2 décembre, pardon, c'est le pot de lancement du foutoir numéro 8, foutoir aussi qu'on a déjà reçu ici. Et attention, ce numéro 8, il est en 3D.
Oh.
Ouais, foutoir, ça sort les gros moyens, j'ai l'impression là. Donc ça se passera à la Griffe, donc vendredi 2 décembre à partir de 18h30. Allez voir les copines et les copains de foutoir, ce sera toujours le moment de boire un petit coup et de discuter, tout ça. Et si j'avais autre chose, ah oui, c'est le samedi 3, alors là il y en a un truc qui se passe un petit peu loin, c'est à Chambéry, mais en tout cas il y a un festival du film militant et libertaire, c'est organisé par le groupe 73 de la Fédération anarchiste. Donc voilà, quand il y a un petit truc anarchiste qui se passe un petit peu loin, bah, on le souligne quand même, parce que bon, hein, ils sont même pas 1%, mais pourtant ils existent. Et un dernier petit truc, ça se passe toujours le samedi 3. Alors là, c'est un meeting pour Adama Traoré. Stop aux crimes racistes et sécuritaires, ça se passera à la MJC Jean Massé, c'est dans le 7e et ça commencera à 19h15. Et d'ailleurs, autour de tout ça, Adama Traoré, il y a quelques frangins ou frangines qui ont été arrêtés parce que, soi-disant, ils embêteraient un petit peu l'État et la mairie de la ville qui a tué un des fils Adama ou un des frères, Adama Traoré. Donc voilà, le climat est toujours aussi sympathique, hein, n'est-ce pas? Ben voilà pour les rendez-vous.
C'est cool.
Ouais. On se dit à la semaine prochaine.
Ouais. À la semaine prochaine.
Merci Aurélien.
Émilien.
Émilien. Pourquoi Aurélien? Pourquoi je t'appelle? Enfin bon. Et ben des bisous, la bonne nuit et on se quitte avec.
On se quitte avec Shinko Namchilak et le titre Tanola Nomad.
Bonne semaine.
Bonne Merci. Semaine.
Bonne semaine.
Plein de bisous.
Ciao.